journée de mobilisation des Gilets jaunes.
C'est l'heure de vérité pour les Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes.
Car le jaune est dominant aujourd'hui.
C'est le jour J pour ce mouvement né sur la toile.
Une mobilisation générale contre la hausse des prix des carburants.
1500 actions.
En tout, 1500 actions.
On ira à Lyon, Paris, Lille.
Les stations d'essence, les péages, les supermarchés seront-ils bloqués?
Un convoi pourrait, dans l'après-midi, tenter de rejoindre le palais de l'Élysée.
L'Élysée, rien que ça, ainsi parlent vos radios et vos télévisions ce matin. Gilets jaunes, colère noire, colère, éruption violente, dire « j'existe », dire « je dénonce ». Derrière le prix des carburants et le ras-le-bol fiscal, on entend très fort donc le besoin de justice et la frustration de l'impuissance. Savoir où on va, les fâchés, au final, parle moins d'économie que de politique. Plus de 70% de sympathisants, mais seulement 15% des Français qui projetteraient d'y participer, nous dit un sondage. Alors colère par délégation, jusqu'où? Combien seront-ils? Oui, ce samedi. Moment de vérité, les Gilets jaunes réussiront ou pas à faire ce dont certains syndicats rêvaient, coaguler les mécontentements individuels. Et les voilà, les syndicats, comme les partis spectateurs, regardant passer les manifs et les colères, ni désirés ni volontaires pour s'en mêler, dépassés par les réseaux sociaux, la vidéo de Jacqueline, la pétition de Priscilla. Des syndicats mal aimés du gouvernement, ils observent à présent ce face-à-face inédit, personne et tout le monde à la fois, pour organiser, relayer, négocier, pas de soupape de sécurité. Alors attention, objet social non identifié.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, c'est économie. Et comme chaque semaine, nous dit-on, vous êtes plus de 2 millions à nous écouter. Toute l'équipe vous remercie du fond du cœur. Le réalisateur Coyenne Guyen, Valentin Pérez, l'attaché de production, et puis à la technique ce matin, Clément Vuillet. Et bien sûr, nos débatteurs, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuel Lechip, BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Bon, on continue évidemment sur la mobilisation des Gilets jaunes. On essaie de mettre au jour les racines, on creuse un peu plus profond le vrai du faux. Sur le ras-le-bol fiscal, sur le pouvoir d'achat, sur le divorce entre les grandes villes et les petites et les campagnes, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débat. Dans le mag également, c'est au cœur du problème. On ouvre le dossier logement. Alors le secteur de la construction, il irait beaucoup moins bien cette année que l'année dernière. Les professionnels se plaignent de mesures gouvernementales qui ont, disent-ils, cassé le marché. Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. Et puis l'invité du mag éco, ce sera vers 9h45, le ministre du logement, Julien de Normandie. Sandrine Fougon, bonjour à vous.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, qui vous a laisser une petite bafouille dans la boîte aux lettres de « On n'arrête pas l'écho ».
Sibylle, le gouvernement étudie la possibilité de télétravailler quand on est en arrêt maladie. Oui, mais malade comment? C'est la question de Sibylle.
Ah oui, est-ce qu'on peut travailler en étant malade? C'est ça, hein? Allez, on se retrouve juste avant 10h. Tout de suite, la colère, ce samedi, en dépit des aides annoncées cette semaine par le Premier ministre.
14 novembre 2018.
Non, on ne va pas annuler les hausses de carburant.
Édouard Philippe.
Nous allons utiliser deux grandes mesures.
Premier ministre.
Aujourd'hui, vous avez des primes à la conversion, elles peuvent monter à 2000 euros. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4000 euros. On va faire une autre chose, on va viser les grands rouleurs en élargissant ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Nous allons aussi défiscaliser les aides au covoiturage.
La seule annonce ce matin faite par Édouard Philippe,
Éric Ciotti,
c'est que les taxes sur le carburant qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des Français vont continuer à augmenter.
Député Les Républicains.
C'est ne pas entendre la colère, le cri d'exaspération. Le reste, ce sont des mesurettes. C'est de la politique de gribouille.
Les premiers signaux qui ont été envoyés par ce gouvernement.
Yannick Jadot.
C'est la suppression de l'ISF.
Député Europe Écologie Les Verts.
Il y a un sentiment profond d'injustice fiscale, d'injustice sociale dans ce pays. Et donc le consentement à l'impôt devient de plus en plus faible.
Alors les taxes sur les carburants, en effet, il y a un ras-le-bol fiscal que je peux comprendre.
Pierre Gattaz.
Notamment des chefs d'entreprise, des plus petits.
Président de Business Europe.
Il faut réduire les taxes. Et pour réduire les taxes, il faut gérer notre pays comme une entreprise, c'est-à-dire faire en sorte qu'on crée beaucoup plus de croissance et qu'on fasse attention à nos dépenses publiques.
C'est là qu'on réconcilie l'ambition de changer le pays avec la considération pour nos concitoyens.
Emmanuel Macron.
Le fait d'entendre que ceux qui sont les plus modestes, ceux qui travaillent tous les jours et ont besoin de prendre leur voiture, ceux qui sont avec une chaudière au fioul et qui ne peuvent pas la changer, il faut les accompagner.
On fait une manifestation.
Barbara Benet-Jeunet.
Parce que les Viennois étaient en deux.
demande d'une manifestation.
Organisatrice des Gilets jaunes à Vienne, dans l'Isère.
Parce qu'ils veulent crier leur désespoir. Je parle vraiment de désespoir. À l'heure actuelle, il y a des gens qui ont 20 euros pour vivre par semaine pour faire les courses. Ils sont pas entendus par le gouvernement. Ils ont plutôt l'impression que le gouvernement et M. Macron essayent de les ridiculiser. Et ça, ils en peuvent plus.
Il faut rappeler toujours un chiffre.
Béatrice Gibelin.
Le salaire médian, c'est 1 700 euros.
Géographe.
Il est évident qu'il faut, pour beaucoup de gens, compter. Et qu'il faut compter tout le temps. Et la voiture, c'est très important.
Celui qui se dit...
Édouard Philippe.
Bah tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout. Vous vous doutez bien que ça mettrait en péril la sécurité des Français. Ça va mettre le bololo partout. Bololo, bololo,
bololo. Bah on n'a pas pu s'empêcher. Alors
parce que c'est que le bololo, mais bon.
Si, mais on sait bien ce que c'est le bololo maintenant. Ah bon Christian, ça sera peut-être aujourd'hui le bololo. Christian Chavagneux, on a bien compris qu'il y a le prix du carburant, mais que ça n'explique pas tout. Il y a d'autres racines. On va en parler, c'est le débat. Mais quand même, avant de démarrer, votre regard sur ce qui a été annoncé par le Premier ministre, les aides pour se transporter, les aides, le carburant.
Ouais, des sous, quoi. En fait, d'accord, le gouvernement découvre qu'au moment où on fait de la transition écologique, il faut mettre des moyens financiers. Et d'autant plus de moyens financiers que quand le prix du pétrole monte, bah, le pétrole plus taxe, ça fait beaucoup. Est-ce que tout le monde l'avait compris depuis longtemps? Le gouvernement le découvre cette semaine. Soit on a affaire à des amateurs, soit on a affaire à des comptables, c'est-à-dire des gens qui veulent réduire le déficit budgétaire. Mais comme par ailleurs, ils ont baissé les impôts, quand vous baissez les recettes et que vous voulez baisser le déficit, il faut compenser. Donc le Premier ministre avait dit, je compense la baisse des cotisations sur les salariés par la CSG. Et puis il nous dit aussi, moi c'est comme ça que je comprends sa phrase de cette semaine, la fiscalité doit plus peser sur la pollution que sur le travail. Mais si à côté, vous voyez qu'il a baissé les impôts sur les riches, moi j'entends, la fiscalité doit plus peser sur la pollution que sur les riches. Évidemment, ça agace d'entendre ça. Et là... J'avoue que vous avez cité Priscilla Ludowski, qui est donc la jeune femme qui a lancé la pétition. Il y a 2-3 jours, elle a mis un texte en ligne pour dire ce qu'elle voulait. Et là, honnêtement, je partage pas le ton, je partage pas toutes les propositions, mais j'ai été surpris. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit quoi? Elle dit, moi aussi, je veux sauvegarder l'environnement, comme le gouvernement. Et vous voulez taxer plus la pollution? Mais moi, je suis d'accord. Seulement, nous dit-elle, montrez que vous nous donnez les moyens de nous déplacer autrement qu'en voiture. Le gouvernement le fait pas. Favorisez l'installation des entreprises dans les zones où les gens habitent. Si vous voulez pas qu'ils prennent leur voiture pour aller travailler, vous le faites pas. Pourquoi vous autorisez Total à forer en Guyane s'il faut réduire la dépendance au pétrole? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi vous remettez pas en cause les constructeurs automobiles qui veulent nous refurguer leurs vieilles bagnoles au diesel? Voilà, je trouve que ce texte, encore une fois, je partage pas le ton, je partage pas toutes les propositions, mais il nous dit ce gouvernement n'est pas crédible. Sa politique générale de lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique n'est pas crédible. Donc, le résultat, c'est quoi? Nous, on paye et pas les autres. C'est pas juste.
Alors, problème de cohérence dans le discours. Vous le notez, ça aussi, Emmanuel Le Chypre?
Oui, parce qu'on voit bien que on est pris dans cette contradiction entre le court terme et le long terme. Et effectivement, à long terme, on sait bien qu'il faut réduire la dépendance vis-à-vis de la voiture. À court terme, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Alors, ce qui aboutit à prendre des mesures parfois absurdes. On sait bien, par exemple, que cette prime à la casse de 2000 euros, elle va encourager quoi? Surtout les gens à acheter des voitures d'occasion. Allez. Et pas des voitures neuves, parce que déjà, quand vous avez du mal à faire le plein, vous pouvez pas vous payer une voiture neuve exceptionnelle. Et que ces voitures d'occasion, ce seront surtout des voitures diesel, puisqu'on trouve plutôt sur le marché beaucoup plus de voitures diesel que
oui,
de voitures d'occasion.
Oui, enfin, c'est des diesel nouvelle génération, ça pollue
moins. Autre aberration, qui est quand même celle-là peut-être la plus incroyable, c'est que je vous rappelle que cette semaine, Édouard Philippe nous a promis qu'il n'y aurait plus de chaudières au fioul d'ici 10 ans. Et je vous rappelle que jusqu'au mois de juillet, il y avait des incitations pour acheter des nouvelles chaudières au fioul. Donc, on voit bien qu'effectivement, on a cette problématique de contradiction court terme, long terme, et qu'on navigue un peu à vue, qu'on voit pas bien le chemin qu'on nous dessine pour résoudre les deux.
Alors, et donc le carburant serait la goutte d'eau hein, qui fait déborder le vase. D'où vient cette colère sourde? Une des hypothèses, enfin une des raisons sans doute, hein, c'est le ras-le-bol fiscal. On nous dit il y a un ras-le-bol fiscal. Par exemple, le montant des prélèvements obligatoires, Christian, il a dépassé les 1000 milliards d'euros cette année. Et certains, ouais. C'est trop, voilà, on étouffe.
J'ai vu le rapport de Joël Giraud qui dit 1000 milliards, mais j'étais voir sur le site de l'INSEE sur lequel il avait marqué impôts et cotisations sociales 1000 milliards en 2013 déjà. Donc je ne sais pas d'où il sort son chiffre. Bon, l'INSEE donnait dès 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ok, on prélève 1000 milliards, mais l'ensemble des transferts versés aux Français en 2017, c'était 897 milliards d'euros selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc ça représente la moitié du revenu disponible des ménages, tandis que les prélèvements, ça représente 40% de leur revenu. Donc ils reçoivent plus que ce qui donne. Alors, bien sûr, la situation n'est pas la même selon que vous soyez parmi les plus pauvres, parmi les plus riches. Mais parmi les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, les prélèvements, en gros, c'est 16% de leurs revenus. Et les prestations, ce qu'ils reçoivent, c'est 77% de leurs revenus. À l'inverse, chez les riches, les prélèvements, c'est un peu plus de la moitié de leurs revenus. Et ce qui touche, c'est un quart de leurs revenus. Donc, c'est très redistributif. Quand on prélève beaucoup d'impôts, on en redonne. On en prend beaucoup aux riches pour redonner plutôt aux pauvres. Et pourquoi? Eh ben, parce que, la conséquence de ça, c'est que la France est le pays où il y a le moins de pauvres dans l'ensemble de l'Union européenne et le pays dans lequel le risque de tomber pauvre est le plus faible, mais largement dans l'ensemble de l'Union européenne.
Mais là, vous nous dites, il y a de la redistribution. Vous pouvez nous dire aussi, il y a des services publics, donc vous êtes en train de justifier ces 1 000 milliards.
Mais on rend beaucoup et on rend beaucoup aux gens qui ont peu de revenus.
Mais donc, alors, comment comprendre?
Vous avez un sondage du ministère qui donne tous ces chiffres à la fin. Le ministère donne un sondage. Est-ce que la France en fait trop en termes de redistribution sociale? Est-ce qu'elle prend trop pour redistribuer? 70% des Français disent non, d'accord ? Donc on a l'impression qu'ils sont plutôt d'accord. Mais est-ce que ça coûte trop cher à la société ? Et là, vous avez 57% des Français qui disent oui, ça nous coûte trop cher. Donc les Français, ils sont un peu paradoxaux. Ils veulent un bon niveau de protection sociale. Et un bon niveau de protection sociale, c'est-à-dire qu'on prélève beaucoup d'impôts tant qu'on les redistribue et on les redistribue. Et en même temps, ils voudraient payer le moins d'impôts possible. Voilà, c'est ce paradoxe qui est là.
Et vous, Emmanuel Le Chip, 1 000 milliards, 45% de prélèvements obligatoires. Est-ce que les Français sont paradoxaux ? Est-ce qu'ils ont raison de se sentir...
D'abord, il y a la colère de l'automobiliste en elle-même, qu'il faut pas négliger, qu'on a quand même pris plein la figure depuis un an. Si vous mettez bout à bout le carburant, on n'y revient pas, les limitations de vitesse à 80, la flambée des PV de stationnement, les péages, le contrôle technique,
les 80 km/h, bon, ça a joué très fort,
etc. Donc l'automobiliste, il en a ras-le-bol. Après, sur la pression fiscale, pour moi, il y a deux choses. Alors, je reviens pas sur le niveau des prélèvements obligatoires. Les 1 000 milliards, effectivement, attention, encore une fois, tout ça doit être rapporté au PIB. Le PIB augmente aussi. Et donc, effectivement, on est quand même à un niveau global de prélèvements obligatoires à plus de 45% du PIB, qui est un des plus élevés. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a un deuxième aspect qui n'est pas seulement le niveau des prélèvements obligatoires. C'est l'instabilité fiscale qui génère de la contradiction. La contradiction, on l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, avec ces mesures sur les chaudières au fioul, et surtout l'insécurité fiscale. Parce que le problème, c'est que toutes les difficultés, tous les sujets avec Emmanuel Macron se résolvent par des mesures fiscales. Et ça crée une espèce d'hystérie que les Français ne supportent plus. Si vous prenez quand même...
On était pas mal avec le quinquennat Hollande sur le sujet des...
Oui, mais c'était pas autant. C'était pas autant parce que chaque semaine, quasiment, il y a une vraie ou une proposition de nouvel impôt. Regardez tout ce qui s'est passé dans le budget 2019. Déjà, toutes les prestations sociales et familiales qui ont été rabotées. Et puis, de quoi nous a-t-on parlé ? Il y a eu ce débat anxiogène sur le prélèvement à la source. Il y a eu Elisabeth Borne, secrétaire d'État aux transports, qui nous a dit « Ah bah, il faut une ressource nouvelle pour financer les infrastructures. » Ah bon, d'accord. On a eu l'ex-ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui nous a dit « Vous allez payer la redevance, même si vous n'avez pas de télé. » Ah bon. Il y a eu le bruit autour de « on va taxer ce que vous vendez sur Le Bon Coin, on va taxer Airbnb ».
D'accord. Donc, le bruit, c'est pas la vie des gens, ça.
Oui, mais c'est
l'impressionnisme. Donc vous dites l'impressionnisme anxiogène.
C'est-à-dire que vous avez eu aussi tous les remous autour des droits de succession. On a parlé de fiscaliser les prestations des comités d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que, et là encore, il y a quelques jours, on nous dit « on va revenir sur la loi Pinel ».
D'accord, mais
etc.
Non, ma question
mais
est
ça,
plutôt...
cette insécurité-là... Ouais. Elle est insupportable. Elle
plus
est insupportable.
Plus importante que les 45% dont vous dites quoi vous
Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait que les Français ils vivent dans un sentiment d'insécurité fiscale absolument permanent.
Alors le pouvoir d'achat maintenant. L'autre motif de colère, c'est le pouvoir d'achat. Christian Chavagneux, est-ce que il est en baisse? On en a déjà parlé la semaine dernière, mais on refait un petit point. Est-ce que ça s'aggrave pour notre pouvoir d'achat?
Les salaires augmentent moins vite que l'inflation en France depuis plusieurs mois. Donc oui, c'est vrai, il y a un problème de pouvoir d'achat. Pourquoi? En octobre, sur un an, l'inflation, elle était de 2,2%. Sur 2018, on devrait avoir une inflation qui est supérieure d'environ 1,5 point par rapport au reste de la zone euro. Et ça fera 2 années de suite, ça n'a jamais vu depuis qu'on a créé l'euro. Pourquoi? Les cours du pétrole. Tous les pays européens, on a tous subi l'augmentation du cours du pétrole. Mais nous, on a en plus la hausse de la fiscalité environnementale plus forte que dans les autres pays. Le tabac, une hausse plus forte que dans les autres pays. La hausse de la fiscalité du tabac, cette année, ça va être 17%. Bien plus forte que dans les autres pays. Le deuxième pays, c'est la Belgique, avec 7%. Vous voyez, beaucoup. Donc les carburants, plus le gaz, plus le tabac, ça nous fait plus 0 point d'inflation par rapport en zone euro et 1,1 point en France. Et Alexandre Mialy-Courtois de Xerfi qui a fait tous ces calculs, je le cite, il y a 0,4 point de taxe Macron dans l'inflation actuelle, en fait, en France, et donc dans la baisse du pouvoir d'achat des Français.
Et pourtant, le chiffre global, Christian, nous dit, mais ça va augmenter à la fin de l'année. Donc,
qu'est-ce qui va augmenter
le pouvoir d'achat, et donc au final, ça a baissé en début d'année, ça va augmenter en fin d'année,
oui,
au final.
Sauf que
le pouvoir d'achat, ça sera positif pour toute l'année.
C'est juste les petits jeux hydrauliques sur les impôts. Là, ce qui compte pour le pouvoir d'achat, c'est combien vous touchez et combien l'inflation vous mange de votre pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une inflation qui est une mauvaise inflation, celle qui est due, macroéconomiquement aux taxes et au cours du pétrole. C'est pas l'inflation qui reflète la dynamique de l'économie française qui ferait que les salaires augmentent parce que la dynamique et l'emploi augmentent. Et donc, ce problème de mauvaise inflation, il touche de plein fouet le pouvoir d'achat des Français.
Non, mais là, je suis pas du tout d'accord avec Christian. Christian, il peut pas nous dire que ce qui fait le pouvoir d'achat, c'est l'arbitrage salaire hausse des prix, quand il nous a dit il y a 5 minutes qu'il y avait presque 900 milliards d'euros par an de redistribution fiscale. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, c'est effectivement les salaires et l'inflation, mais c'est aussi toute la redistribution, etc. Donc la réalité, c'est que si vous prenez la France comme si c'était une seule famille, le pouvoir d'achat, il va augmenter cette année de plus de 1,5%, et même le dernier trimestre, à cause... Quand même, il faut le rappeler, de la baisse des cotisations sociales et de la taxe d'habitation, eh ben, il va augmenter comme il a jamais augmenté depuis 2000.
Non, mais il
n'a
pas augmenté pour tout le monde de la même façon.
C'est ça le sujet. C'est qu'effectivement, un, les moyennes, ça reflète finalement la réalité de personne. Deux, c'est vrai que cette augmentation globale du pouvoir d'achat de la famille France, il est lié aussi à l'augmentation du nombre de ménages, hein, et pas seulement à l'augmentation du pouvoir d'achat par ménage. Il y a effectivement ce fait que cette augmentation du pouvoir d'achat, elle est très inégale. Là, je vous renvoie à l'étude qu'on a déjà citée maintes fois de l'Institut des politiques publiques. Pour les 20% les plus pauvres, les deux premières années d'Emmanuel Macron se traduisent par une baisse du pouvoir d'achat et que ça profite surtout aux classes moyennes et aux salariés. Et puis n'oubliez pas encore...
Riches.
Et puis n'oubliez pas encore cette affaire de dépenses contraintes. Hein. 30% du budget maintenant, c'est des dépenses contraintes, c'est des abonnements, c'est des dépenses fixes. Et donc, bah, quand vous êtes coincé, quand vous avez votre budget qui augmente de quelques dizaines d'euros à cause du plein d'essence, etc., et bah oui, c'est compliqué à gérer.
Christian Chavagneux, on passe à une troisième racine du mal. Ça serait quoi pour vous ?
Le divorce entre les territoires et Paris. Alors là, un abandon total du rural, ça c'est complètement faux. Hein. Quand vous regardez, les habitants des territoires ruraux sont les mieux dotés en argent public. En Lozère, c'est 830 euros par habitant. Dans le Rhône ou les Yvelines, c'est 105 euros par habitant. Donc l'argent public, il va à fond dans les territoires ruraux.
Attends, donc là, c'est clairement une idée reçue.
C'est clairement une idée reçue. En plus, il y a une surreprésentation des ruraux à l'Assemblée nationale. En Lozère, un député de Lozère, il représente 76 000 personnes, un député de Seine-Saint-Denis, 130 000. Il y a une surreprésentation des ruraux. Pour autant, attention, il y a des pertes de services publics très claires. Entre 80 et 2013, le nombre de communes rurales avec une présence de la poste a baissé de 10%, avec une présence de gendarmes de 9%, d'écoles primaires de 40%, des gares ferroviaires de 42%. Et je ne vous parle même pas de la difficulté à avoir un rendez-vous chez le médecin.
Donc, Emmanuel Le Chip, pour vous, il nous reste quelques instants. Les racines du mal, on a parlé du ras-le-bol fiscal, du pouvoir d'achat, on a rétabli les chiffres. Christian dit, il y a le divorce avec les territoires, attention.
Alors le divorce avec les territoires, c'est effectivement compliqué. Hein. Si vous regardez par exemple ce que dit le dernier baromètre Odoxa, vous voyez que l'optimisme de la France aisée et urbaine, il n'a jamais été aussi élevé et l'écart n'a jamais été aussi grand avec le pessimisme de la France des bas salaires, des petites villes et des campagnes. Ça pose tout un tas de questions philosophiques. Hein. C'est par exemple, est-ce que ce qui compte, c'est le nombre d'habitants par zone géographique, ou bien est-ce que c'est la densité en kilomètres carrés ? Il y a plein de questions qui se posent. Et la réalité, c'est qu'avant, vous étiez scotché dans les campagnes et vous étiez mobile dans les villes, alors que maintenant, c'est le contraire. Vous êtes scotché dans les villes et vous êtes en réseau quand vous êtes à la campagne. C'est des évolutions...
Si vous avez une voiture, quand même.
Si vous avez des voitures. Mais d'ailleurs, on voit bien que la France des Gilets jaunes, aujourd'hui, telle qu'on la voit depuis ce matin, c'est la France périurbaine, c'est la France des gens qui habitent dans des maisons, c'est la France des gens qui ont 30 à 40 kilomètres à faire pour aller bosser, qui ont besoin de plusieurs voitures. Et c'est eux qui, aujourd'hui, souffrent particulièrement.
Bon, et on fera le bilan de ce mouvement de ce samedi 17 novembre. On va voir où va l'objet social non identifié la semaine prochaine. Merci Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. Direction Londres, à présent, on va aller voir l'économie, comment elle se passe ailleurs. Parce que quand même, il faut parler un petit peu du Brexit.
I know it's been a frustrating process. It has forced us to confront some very difficult issues. But a good Brexit, a Brexit which is in the national interest, is possible.
La voix de Theresa May devant la Chambre des communes, toujours un petit peu optimiste quand même. Oui, c'est sûr que ça a été difficile de parvenir à ce contrat de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Antoine, du côté des entreprises, du côté des milieux d'affaires, du patronat, quel est le sentiment outre-Manche ?
On peut dire que c'est un demi-soulagement, petit soulagement, parce qu'il n'y a aucune certitude, mais c'est tout de même mieux que rien, disent les banquiers, avec des applaudissements cette semaine, notamment chez Barclays. Même Catherine McGuinness, qui représente la puissante City of London et qui accusait ces derniers mois le gouvernement de négliger le secteur financier, le reconnaît. Face à l'incertitude, les 585 pages de détails techniques apportent une clarté bienvenue. Et pourtant, l'accord tel qu'il est rédigé ne donne pas aux opérateurs la possibilité de conserver le système de passporting qui leur permet d'exporter les services dans les pays de l'Union, mais ils mettent en place un système d'équivalence, un système de reconnaissance mutuelle, un peu sur le modèle de ce qui existe entre les États-Unis et le Japon, système qui doit permettre de ne pas trop bouleverser le marché et les activités pendant la période de transition, en espérant ensuite peut-être négocier des accords plus complets qui entreraient en vigueur autour de 2021.
Oui, ça c'est pour la théorie, Antoine. Mais avec la crise politique qui secoue le Royaume-Uni, on a Theresa May, enfin vous avez Theresa May sur un siège éjectable. Est-ce que les patrons peuvent être tout à fait rassurés par cet accord aujourd'hui?
Non, si on est honnête, pas vraiment. Chez les constructeurs automobiles, le patron d'Aston Martin le dit d'ailleurs, tant que le texte n'est pas ratifié par le Parlement, on change rien, on maintient les plans d'urgence. BMW continue aussi de se préparer au pire et les dirigeants de Rolls-Royce, qui fabriquent des moteurs pour l'aérospatiale, pour la marine, les sous-marins, le disent au gouvernement, l'entreprise fonctionne à flux tendu, il y a des milliers de pièces qui viennent de l'autre côté de la Manche, alors signer n'importe quel accord, n'importe quoi, ce sera toujours mieux que pas d'accord du tout. Il faut faire preuve de pragmatisme et pas d'idéologie, précise le directeur général de UK Finance, l'association des banques et des assurances. En fait, quelques banquiers comme Merrin Davies, ancien ministre du Commerce, profitent même de l'occasion pour réclamer un deuxième référendum sur le Brexit.
Ah oui, à suivre. Antoine Gignot, le correspondant permanent de France Inter au Royaume-Uni. Merci à vous, Antoine. À venir dans la prochaine demi-heure, le dossier logement. Le ministre du logement, Julien de Normandie, sera avec nous dans ce studio. La loi Élan va bientôt être promulguée. Mais d'abord, on sort du studio 521. Vous savez que quand le bâtiment va, tout va. Et bien justement, il semble qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, ça n'aille plus si bien.
Quand les murs intérieurs ont été faits, là, ça prend forme. Les petits enfants ont vu la taille de leur chambre et tout ça, donc d'un seul coup, ils se rendent compte aussi, eux.
Un soleil éblouissant et des engins de chantier qui s'activent ici, sur ce petit lotissement où sont en train de sortir de terre une dizaine de maisons individuelles. On est à Bourtrould, 30 km de Rouen dans l'heure.
On voulait une maison de 90-100 mètres carrés, donc c'est la surface qu'on a aujourd'hui. Tout le placo et toutes les bandes sont faites. C'est les plombiers qui sont là. Il restera encore les électriciens et après le carrelage. Et après, je pense qu'elle sera habitée. Le budget était serré. À 150 euros près, nous, on le faisait pas. Quand on nous a fait une modif, parce qu'il y a une modification ici, parce qu'il y a un pigeonnier, donc elle est passée en bâtiment de France, la maison, on a fait un surplus de crédit de 6000 euros. On était à la limite d'arrêter. Le prêt à taux zéro nous a apporté quasiment 78 000 euros. On avait de quoi pour la maison, enfin en tout cas les banques passaient au niveau de la maison, et il nous manquait 78 000 euros pour le terrain. En fait. Et le prêt à taux zéro nous fait aujourd'hui acheter le terrain plus quelques petites choses à l'intérieur de la maison. Quand on en reparle de temps en temps, on se dit que oui, on a eu de la chance de passer au travers de la baisse.
Et oui, parce que ce prêt à taux zéro, il a été révisé à la baisse dans les zones rurales. Et en effet, si Thomas, le mécanicien, et sa femme Madeleine, qui est secrétaire médicale, n'avaient pas présenté leur dossier juste avant ces restrictions, ils n'auraient pas fait construire. Cette modification du PTZ, elle était inscrite dans le budget 2018 comme une autre mesure qui a fait du bruit, la baisse des APL, on aime les acronymes dans le logement, les allocations logement. On se souvient tous des protestations, mais sur le terrain, que s'est-il vraiment passé ? Un an après ces débats, à On n'arrête pas l'écho, nous avons décidé de faire la photo et Claire Chaudière, notre reporter, a découvert un secteur qui ralentit brutalement alors qu'il allait bien. À son micro, des déceptions, du mécontentement, voire là aussi de la colère, vous allez l'entendre, on retourne chez Thomas et Madeleine sur le chantier de leur future maison.
Bonjour.
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 Je suis Étienne Requin, je suis constructeur en Haute-Normandie. Je co-dirige la société Extraco, qui construit environ 300 maisons par an. On voit tout un tas de clients qui étaient solvables, finançables, on va dire, l'an passé, et qu'ils ne le sont plus cette année. Donc c'est vrai qu'on est un peu en colère, parce qu'on voit des clients qui ont deux salaires CDI, qui ont toutes les conditions pour devenir propriétaires. La preuve, ils sont en train de le devenir. Et puis l'impact de la modification du PTZ et la suppression de l'appel à accession, mon client, d'une année sur l'autre, il n'accédait plus à la propriété.
Clairement, c'est ce que je vous disais, on ne l'aurait pas fait si on avait eu moins de prêts, on ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas pu acheter le terrain. Donc...
On a l'impression que les mesures gouvernementales qui étaient d'apparence anodines ont en réalité un impact considérable sur la solvabilisation des ménages. Au niveau national, depuis le début de l'année, le marché est déprimé d'environ 11%. Sur la Normandie, c'est moins 25%, donc c'est plus aigu. Et notre société n'échappe pas à la morosité du marché. Ce qui est contradictoire, c'est qu'on a une activité qui est bonne aujourd'hui parce qu'on est en train de construire le carnet de commandes de l'année dernière et de l'année d'avant. Mais nous, on sait, pour avoir moins vendu, et les indicateurs le montrent, que l'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué pour les artisans, pour les constructeurs aussi.
L'équation, elle est assez simple. Ce que disent les professionnels, c'est qu'un logement construit en France, c'est en moyenne 2 emplois dans le secteur du bâtiment. Alors on vient de voir que le ralentissement est net du côté des ventes de maisons individuelles. Plus inquiétant encore, le logement social, qui est considéré comme la locomotive du secteur, connaît également une baisse des mises en chantier, bousculée lui aussi par des mesures budgétaires. On file à l'autre bout de la France voir le bailleur social Héro Habitat, basé à Montpellier, qui fait partie de ceux qui ont le plus réduit la voilure en matière de construction.
Ah, bonjour, monsieur Pugins.
Rentrez, je vais poser juste ça. Rentrez après. Voilà.
Alors, Jean-Pierre Pugins, directeur général d'Héro Habitat, a ouvert la fenêtre de son bureau au cœur du quartier du Petit Bar, qui est un des quartiers très populaires de Montpellier.
Voilà, on est au cœur du quartier Petit Bar, qui est un quartier difficile, parce qu'on voulait garder une présence sociale, une présence humaine, une présence des services publics à l'intérieur de ce quartier. On a une zone qui est l'Occitanie, qui est avec un développement extraordinaire. Je crois qu'il y a plus de 50 000 personnes de plus par an qui viennent. Donc un besoin de construire très important. Et là, aujourd'hui, nous avons dû réduire de façon importante notre production de logements sociaux. Pour les années précédentes, nous faisions aux alentours de 400 logements par an. Et aujourd'hui, nous réduisons aux alentours de 200, voire 210 logements. Énorme diminution, nos fonds propres sont limités.
Alors c'est ça, il y a un an, le projet de loi de finances 2018 vous a fortement impacté avec cette baisse de l'APL prise sur les loyers que vous percevez, c'est ça ?
Sur un résultat annuel de l'ordre de 8 millions d'euros, l'État nous prélève aujourd'hui pratiquement 3 millions d'euros. Alors cette année encore, ça se voit pas trop. On vit avec une inertie, vous savez, quand on construit des logements, il faut 2 ans avant qu'on livre l'opération. Par contre, les engagements que nous faisons sont divisés de moitié.
C'est-à-dire que c'est les projets lancés, c'est les demandes d'agrément qui sont aujourd'hui touchées, c'est-à-dire les constructions de demain. Alors là, on a sous les yeux la carte du territoire.
On a toute une série de projets qui ont été abandonnés. Florensac, Loré, puis Salicon, des projets qui sont souvent des projets structurants pour des petites communes.
À 200 mètres, prenez la deuxième sortie.
Pour aller à Puy-Salicon, à 85 km de Montpellier, 30 de Béziers, il faut emprunter la 75, une petite heure de route entre mer et montagne, au milieu du vignoble du Languedoc. Sortie. Le maire du village s'appelle Michel Farinck.
C'est chouette comme vous me couvrez. Hein. Vous avez vu un peu le coup d'œil sur le vignoble. Là, le coup d'œil sur le château, l'église. Hein.
On voit d'ici le château, l'église, la mairie.
Alors nous sommes 1350 habitants pour une superficie de 1300 hectares. Hein. Un village au milieu des vignes. On va passer par là. Alors là, on est pas loin du projet. On est au centre un peu du village. Et dans ce lieu qui nous semble très judicieux, on a envie d'y installer nos seniors. En fait, on voulait proposer aux seniors qui sont chez nous, qui sont dans des habitats pas adaptés souvent, et puis qui sont souvent isolés, de pouvoir leur proposer une résidence. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, Et puis à la fin, on est un peu déçu parce que le projet qui devait aboutir cette année, on nous dit maintenant on ne peut pas le faire. Vu les baisses de dotation, c'est vraiment un coup dur.
C'est le bailleur social, Héro Habitat, qui avait construit ce projet avec vous, qui vous dit ça ne se fera pas.
Tout à fait, c'est cela. C'est dommageable, hein, voilà. Et c'est vrai que nous, on est au bout de la chaîne et on porte des projets avec Héro Habitat et on est vraiment déçu de ne pas pouvoir les réaliser, d'autant plus que ce sont des projets à l'échelle humaine, quoi. Alors ce lieu il est extraordinaire, il permet de voir les Pyrénées au fond, on ne voit pas la mer, on la devine. Et imaginez que nos anciens puissent se retrouver là, c'est pour nous un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est dommageable tout ça. Hein.
Vous avez le plan avec vous là?
J'ai un dessin, ce sont des logements côte à côte, donc voilà. Ce côté humain dans nos villages où on a vraiment à cœur de ne pas laisser tomber les gens, quoi. Et leur proposer de se retrouver ensemble dans une petite résidence, c'est pas le bout du monde. Mais en même temps, ça permet aussi de garder ces liens qu'on aime avoir dans nos villages entre tous les habitants, quoi.
Alors, regardez bien ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passait avant? On l'a vu ensemble. Dans la demande d'autorisation d'urbanisme, on renseignait à la fois la surface hors œuvre brute et la surface hors
œuvre. Alors, j'ai pas parlé trop fort parce qu'il y a des élèves à côté de moi, mais ce qu'on entend, c'est un cours de droit de l'urbanisme dans une école des métiers de l'immobilier, l'IMSI, à deux doigts du canal Saint-Martin à Paris. J'ai rendez-vous avec son président, Henri Buzicazo, ex-dirigeant de la FNAIM, expert sur les questions de logement.
Il y a un an, le gouvernement promettait, avec notamment son projet de loi Élan sur le logement, un choc de l'offre. Est-ce qu'un an plus tard, il est là? Visiblement, tous les témoignages vont dans le sens inverse.
Alors, il n'est pas là. Et là, on a même aujourd'hui un choc inverse, c'est-à-dire qu'on a une baisse de mise en chantier. On a aujourd'hui un problème du gouvernement, il est plus facile de le décrire que de le résoudre, hein, mais qui consiste à dire les fonds publics manquent à l'appel, donc on veut baisser le niveau des aides tout de suite. Et deuxièmement, on veut créer des outils administratifs. Alors je pense dans la loi Élan, ce qu'on appelle le permis de faire, qui est une espèce de permis de construire beaucoup plus libéral, avec beaucoup moins de contraintes, qui devrait inciter les promoteurs à construire plus. Mais le deuxième outil va mettre 3 à 5 ans pour se mettre en place, et en revanche, la baisse des aides agit immédiatement. Donc on a un phénomène de ciseaux, et le gouvernement aujourd'hui doit apprendre à agir avec plus de nuances. C'est près d'un milliard et demi qui a été retiré dans la dernière loi de finances. Bon. Et celle-ci ne peut pas s'offrir le même luxe, ça va être une catastrophe. Vous savez, c'est un travail de médecin, hein. Vous imaginez un patient qui est sous perfusion, à quel rythme on va ralentir la perfusion, les aides, sachant que l'organisme n'est pas encore rétabli, qu'il n'est pas encore énergique. Voilà.
Mais alors justement, est-ce que c'est normal qu'un secteur aussi important que celui de la construction de logements soit à ce point-là sous perfusion?
Alors, je vais vous dire oui. Parce qu'on entend des choses qui sont injustes là-dessus. Un seul chiffre, les aides au logement, au moment où on parle, c'est 41 milliards d'euros par an. Ce que rapporte le logement à l'État par an, c'est 73 milliards d'euros. La fiscalité sur l'immobilier est extrêmement forte. L'État est gagnant de toute façon. Donc attention à ne pas baisser excessivement les aides, parce qu'au bout du compte, c'est l'essoufflement du secteur. Donc impact sur la satisfaction des ménages en matière de logement qui va être moindre. La paix sociale d'un pays, elle repose sur un bon degré de satisfaction du logement. Le logement n'est pas une denrée comme une autre. On peut se passer de beaucoup de choses, on ne peut pas se passer d'être correctement logé, avec un taux d'effort, comme on dit, économique supportable, et à quelques autres données, hein, la sécurité, l'éducation, voilà, il y a quelques points sensibles, le logement vient en tête.
Le bâtiment, une dynamique en train de se gripper, c'était le reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et le ministre du Logement vient de s'asseoir dans le studio 521, Julien de Normandie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu le reportage, vous étiez avec nous, vous avez entendu les professionnels. Que se passe-t-il dans la construction? Est-ce que la politique du gouvernement est en train de casser le marché?
Non, pas du tout. Après, le logement, vous savez, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, toutes celles qui nous écoutent savent bien, c'est souvent la galère pour trouver un logement. Souvent, les logements sont beaucoup trop chers. Parfois aujourd'hui, on le voit de plus en plus se développer, les logements ne sont pas de bonne qualité. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait des années que c'est comme ça. Songez un seul chiffre, aujourd'hui, alors qu'on est dans des années records de construction, on construit autant de logements qu'au début des années 80.
Alors justement,
depuis lors, il y a 10 millions de Français en plus, et surtout vous avez une société qui a évolué avec des ménages qui ont subi des divorces. Et donc, vous avez une pression de plus en plus forte sur le logement. Et donc, ce constat, moi, je le fais. Je le fais depuis 18 mois où je suis en charge de ces dossiers. Mais ce constat, il n'est pas nouveau. Ça fait des années que c'est comme ça. Cette pression, ça fait des années qu'elle est aussi forte.
Oh, mais ce que disent les professionnels, vous avez entendu, vous les entendez tous les jours, j'imagine, au ministère, c'est vous avez abaissé, vous avez restreint le prêt à taux zéro, vous avez baissé les APL, du coup, il y a moins de logements. Mais est-ce que, Julien de Normandie, on va passer sous la barre des 400 000 logements construits cette année?
Non, on verra en fin d'année, mais vous savez...
Vous avez une idée,
aujourd'hui, par exemple, dès que vous êtes sur le logement social, on connaît les constructions de logements sociaux qui représentent une grande partie qu'en fin d'année, pour des raisons techniques. Mais donc, on déterminera en fin d'année. Mais vous dites, ce gouvernement a réduit le prêt à taux zéro. Mais qu'est-ce qui se passait en 2017, quand moi j'arrive et que je prends mes fonctions? Le gouvernement précédent a éteint toutes les aides. Toutes les aides, je dis bien toutes. Le PTZ, le Pinel, devait s'arrêter fin 2017. Donc, toute l'année 2017, les opérateurs, les promoteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas si ces aides allaient être reconduites en 2018, 2019. Ils ne savaient pas. Tout devait s'arrêter fin de l'année. Le ministre qui reconduit, et en plus qui reconduit ses aides sur la durée, c'est-à-dire que la majorité d'entre elles, j'ai pris un engagement, je l'ai fait voter en loi de finances, de les reconduire sur 4 ans pour donner cette visibilité, pour donner cette lisibilité. Ben, ce ministre, c'est moi, c'est celui qui appartient à cette majorité gouvernementale. Donc c'est toujours un peu facile de chercher les responsabilités sur le court terme. Après, une des personnes qui a témoigné évoque une loi, la loi logement. Cette loi logement, j'ai travaillé pendant 18 mois avec tous les constructeurs, les promoteurs, les élus locaux. Cette loi logement, elle vient d'être adoptée. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel cette semaine. Cette loi logement, c'est des nouvelles mesures, des nouveaux outils. On est allé en profondeur pour chercher là où étaient les blocages. Bon, et oui, les personnes interviewées l'ont bien dit. Et donc cette loi logement, elle va prendre effet maintenant.
Mais alors
elle
c'est quand le choc maintenant de l'offre, les logements qu'on construit en plus? Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne savez pas encore si la politique a cassé le marché et qu'il y a moins de logements construits, ce que veulent savoir les Français, c'est quand est-ce qu'il va y avoir plus de logements construits pour répondre à cette pénurie de logements.
Mais c'est que ce constat n'est pas nouveau et ce constat je l'ai fait. Deux, que je travaille avec énormément de détermination pour mettre en place des mesures nouvelles, radicales, pas des pansements, mais des vrais changements. C'est la loi logement qui vient d'être adoptée. Et trois, on parle d'aide fiscale. Ces aides fiscales, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des vraies politiques publiques de réaménagement et de construction. Deux exemples. On parle des bailleurs sociaux. On se focalise sur les APL. En parallèle des bailleurs sociaux, c'est 10 milliards d'euros qui sont pas dans les budgets parce que ça vient de la Caisse des dépôts ou d'autres partenaires. C'est 10 milliards d'euros que je mets pour les appuyer dans leurs projets de construction. On parle de la rénovation urbaine. Vous savez, c'est partie des territoires, notamment les quartiers, où il faut rénover parce qu'il y a un besoin immense. C'est là aussi 10 milliards d'euros
alors,
que je mets.
Alors comment vous expliquez ce manque de confiance? Comment l'expliquez-vous, Julien de Normandie?
Mais parce que c'est pas nouveau, parce que c'est enraciné depuis des décennies, parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose, par exemple, moi, qui me marque profondément. On a opposé les propriétaires et les locataires. On a opposé les acteurs du logement. La loi logement que je viens de porter, elle a été adoptée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Je pense que c'est une première pour une loi logement. Et moi, je ne cesse de dire, il faut réconcilier ces propriétaires et les locataires. Il faut arrêter de dire que les propriétaires, ce sont tous des nantis ou que les locataires, ils ont comme principal hobby de dégrader un bien. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers d'appartements, qui sont juste vides. Pourquoi? Parce que les propriétaires préfèrent ne pas les louer. Soit parce qu'ils ont des difficultés, et donc il faut les accompagner, c'est ce que je fais par exemple pour les aider à rénover leur habitat, soit parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué ou qu'ils n'ont pas confiance dans les locataires.
Donc,
et ça,
Julien de Normandie,
il faut résoudre cette divergence entre les deux. Un exemple.
Quand verra-t-on les résultats? Verra-t-on le choc de l'offre? C'était la promesse du gouvernement. Quand?
Mais le plus rapidement possible.
Votre loi, elle va être promulguée quand?
Elle est promulguée dans les tout prochains jours. Et parallèlement à cette loi, c'est d'autres mesures que je mets en place. Les étudiants. Prenons les étudiants.
Donc je n'ai pas de date pour mon choc de l'offre.
Mais non, mais le choc de l'offre, j'y travaille tous les jours.
J'imagine.
Le choc de l'offre, pour moi, il doit arriver le plus rapidement possible.
3 à 5 ans, disent les promoteurs.
Non, il y a des mesures, par exemple, dans la loi logement, qui sont d'application immédiate. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes un étudiant, aujourd'hui, la galère pour avoir votre logement, c'est que le propriétaire n'a pas confiance en vous. Qu'est-ce que j'ai développé? J'ai développé une garantie qui s'appelle la garantie Visale, qui est un dispositif qui existait un peu, mais que j'ai profondément étendu. Ça marche, c'est opérationnel depuis maintenant le début de l'été. Tous les étudiants qui nous écoutent, allez sur le site visale.fr, vous avez une caution, vous allez voir votre propriétaire, et le propriétaire qui nous écoute, il est totalement garanti que son loyer va être payé. Deuxième exemple, il y a plein de bureaux vacants Autour de nous, on les voit partout, des bureaux vacants. On peut les transformer très rapidement. Dans la loi logement, j'ai pris des mesures très fortes pour transformer ces bureaux en logements. Et,
Julien...
et les promoteurs, les personnes qui possèdent ces logements, ont pris un engagement face à moi. Rien qu'en Ile-de-France, 500 000 mètres carrés seront transformés en logements d'ici la fin du
quinquennat.
Julien
de Normandie, l'actualité quand même. Ce samedi, ce sont les gilets jaunes. Est-ce que le logement pour vous est au cœur du problème ?
Le logement est une des principales préoccupations de nos concitoyens. Une des principales. Parce que soit ils n'arrivent pas à y avoir accès, soit ils vivent dans des logements qui sont pas suffisamment dignes. Et donc, il faut rénover aussi ces logements. C'est une politique publique. Vous savez, il y a eu un parent pauvre des politiques du logement, c'est ce qu'on appelle les villes de moyenne taille, les villes de quelques dizaines de milliers d'habitants. Toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui habitent voient bien. Vous avez un centre-ville qui périclite. Un centre-ville, vous avez des logements vacants, des logements de mauvaise qualité. Et ça, il n'y avait aucune politique publique du logement qui leur était dédiée. On a créé une politique publique qui s'appelle Action Cœur de Ville. 5 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. C'est en cours. C'est 200 villes qui ont signé cet engagement de bénéficier des financements d'État pour aller rénover les logements dans ces centres.
Et la rénovation,
et ça, c'est une préoccupation de toutes les Françaises et Français.
Et si on veut lutter contre la pollution, si on veut dépenser moins d'argent pour se chauffer, par exemple, et la rénovation thermique, est-ce que là, il n'y a pas une politique contradictoire ? Vous sortez les fenêtres du crédit d'impôt pour la transition énergétique, vous diminuez quasiment de moitié, c'est ce que disait Nicolas Hulot quand il a démissionné, les crédits d'impôt pour la transition énergétique, pour la rénovation thermique. Est-ce que cette politique va dans le bon sens ?
Mais parce que là, vous prenez un outil. Vous prenez cet outil qui s'appelle le crédit impôt transformation énergétique qu'on consolide en le mettant là où il est le plus efficace. Mais il y a d'autres outils. Moi, par exemple, je pilote une agence qui s'appelle l'Agence nationale de l'habitat. J'augmente de 50%, ces crédits pour transformer chaque année 75 000 logements. C'est d'autres outils sur lesquels on a une profonde augmentation des crédits significatifs qu'on met. Une politique publique, ça n'est pas qu'un outil. Une politique publique, c'est un ensemble. Il faut le voir dans sa globalité. Les logements aujourd'hui, c'est 40% des gaz d'émission, d'émissions de gaz à effet de serre. 40%.
Absolument.
C'est un Français sur six qui, au moment où on se parle, a froid dans son appartement. Donc, je peux vous dire que moi, j'agis avec beaucoup de détermination, là aussi, pour dire à toutes les Françaises et Français qui en ont besoin, j'ai mis à disposition, à votre disposition, des aides. Allez sur le site ana.fr. A-N-A-H.fr. Vous verrez, il y a des aides qui vous sont dédiées, qu'on a profondément augmentées, pour transformer vos logements.
Vous entendez les reproches aujourd'hui, vous, membre du gouvernement, le problème, c'est pas tant la fiscalité, c'est la justice sociale, vous entendez ?
Mais je l'entends, mais tout à l'heure, je vous prends un exemple, c'est ces villes de moyenne taille. Ces villes de moyenne taille dans le logement, ça fait des décennies qu'elles n'étaient pas accompagnées. Des décennies. Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des politiques qui étaient surtout dans les zones dites tendues, donc les grandes agglomérations, les métropoles, en se disant, il faut toujours construire plus. Mais c'est très bien de construire là où c'est nécessaire. Mais quand vous avez ces villes de plus petite taille, où vous avez un bâti au centre-ville qui s'effondre, alors que le centre-ville, c'est notre identité, c'est notre marque, c'est ce qui nous fait, eh ben, ces politiques publiques, elles n'existaient pas. C'est nous qui les avons mis en œuvre avec là aussi des moyens considérables. Ça prend du temps. Le logement, ça prend du temps. Vous croyez que ça me fait plaisir que mes politiques publiques ne soient pas avec un effet encore plus rapide? Évidemment que le logement, ça prend du temps. Mais, une fois que j'ai défini, je peux vous dire que je mets la même énergie à les mettre en œuvre avec beaucoup de détermination pour que ça aille le plus vite possible.
Une question, la toute dernière, sur Marseille. 8 morts, 2 immeubles qui s'effondrent, de l'habitat indigne. Par quoi elles ont été écrasées, ces personnes ? Par l'accumulation d'inertie, d'incompétence, de négligence ?
Il y a une enquête qui est en cours, on verra les responsabilités. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fléau du logement insalubre, moi je l'ai identifié depuis longtemps. Et ironie tragique du sort, j'ai annoncé des mesures très fortes pour lutter contre ces logements insalubres à Marseille, au début du mois d'octobre.
La mairie dit qu'on les empêche de manœuvrer. Le Jean-Claude Gaudin, le maire, en appelle à l'État pour changer les procédures.
Ben, j'ai fait une proposition à la mairie de Marseille. J'ai vu Jean-Claude Gaudin il y a quelques jours. J'ai fait une proposition pour lui dire toute la politique publique que j'ai mis en place, avec là aussi à la fois des financements, mais aussi une accélération des procédures. Eh ben, je suis à vos côtés pour qu'on les mette en œuvre plus rapidement, vous élus locaux, sur Marseille.
Julien de Normandie, le ministre du Logement, merci d'avoir été
merci
sur France Inter.
Vous.
Sandrine, l'exécutif étudie la possibilité de pouvoir travailler de la maison quand on est malade, ce qui inquiète beaucoup Sybille de Haguenau en Alsace. N'est-ce pas la porte ouverte à certains abus, vous demande-t-elle?
C'est vrai Sybille, jusqu'ici, quand on est en arrêt maladie, on ne travaille pas. Bien sûr, dans certains cas, il serait possible de télétravailler avec une jambe cassée, rien ne nous empêche de pianoter sur un clavier. Matignon, qui fait plancher un groupe d'experts sur les arrêts maladie, juge la piste intéressante. Si l'état du patient le permet, le médecin pourrait cocher une case télétravail. Pour des arrêts plus longs, pour des maladies chroniques, le télétravail ou le mi-temps thérapeutique dès le premier jour de l'arrêt peuvent aider un salarié à garder un pied dans le boulot. Le rapport d'étape des experts rappelle qu'une personne arrêtée plus de 6 mois perd 50% de chances de retrouver son travail, voire un travail tout court. Mais vous avez raison Sybille, quelles pathologies seront compatibles avec le télétravail? Le patient aura-t-il son mot à dire? Faut-il faire pression sur quelqu'un qui a mal au dos?
Si ces mesures sont mises en application, Sandrine, peuvent-elles être une source d'économie pour la sécurité sociale?
C'est fort peu probable, d'abord parce que les arrêts courts ne coûtent pas si cher. Les arrêts de moins de 15 jours représentent seulement 9% de la dépense. Ce sont les arrêts longs qui pèsent le plus lourd. Au-delà de 6 mois, ils comptent pour 44% des dépenses. Ce n'est donc pas le télétravail qui va stopper l'inflation des arrêts maladie. Les indemnités journalières s'envolent depuis 3 ans parce que la masse salariale du secteur privé augmente. Mais c'est surtout qu'avec les réformes des retraites, les seniors doivent travailler de plus en plus tard. Sans amélioration des conditions de travail, il est de plus en plus difficile pour eux de tenir le rythme. Mais aujourd'hui, ce qui est à l'étude, c'est l'arrêt des arrêts maladie. Des pistes sont évoquées, rendre plus efficace la contre-visite de l'employeur ou simplifier le calcul des indemnités journalières. Proposition plus originale, le groupe d'experts suggère de généraliser le complément de salaire versé par les entreprises en cas d'arrêt maladie. 9 millions de salariés en sont exclus, mais ça coûterait cher. Très cher aux employeurs.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.